enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. La plupart des gens vont dire que oui, on sait que Dieu est bon. Normalement, un chrétien, si vous lui dites « Dieu est bon », il va être capable de vous répondre « Amen, il est bon ». Normalement, hein. S'il n'y arrive pas, c'est déjà grave. Hein. Mais sinon, Dieu est bon, ça c'est sûr. Mais on a besoin de le réaliser vraiment dans notre vie. Et si on réalise à un point plus élevé que celui auquel on est aujourd'hui, combien Dieu est bon, ça va vraiment ouvrir des portes et on va vivre une puissance comme jamais dans notre vie. Parce que le fait de savoir que Dieu est bon, ça vous ouvre la porte à un domaine tellement extraordinaire et tellement enthousiasmant de la bonté et de la puissance de Dieu. Quand vous croyez, vous savez et vous déclarez que Dieu est bon, vous êtes en train d'appeler cette bonté de Dieu à se manifester. Et ça, c'est vraiment tellement bon. Et donc, beaucoup de gens croient la bonté de Dieu, mais beaucoup ne la croient pas à 100%. Beaucoup ne la croient pas à 100%. J'ai dit, si vous leur dites qu'il est bon, ils vont vous répondre oui, il est bon. Mais si vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il n'est peut-être pas si bon que ça. Parce que croire que Dieu soit bon, mais qu'il puisse faire dans votre vie des choses qui ne sont pas bonnes et que ce soit peut-être même sa volonté ou que ce soit lui qui les ait envoyés vers vous, pour moi, c'est pas croire en un Dieu bon. Quand on dit Dieu est bon, mais il permet que je souffre telle situation, ou il permet que je sois dans le manque, ou encore pire, quand des gens vont vous enseigner ou vous faire croire que la pauvreté c'est un signe de piété, vous faire croire que la maladie c'est quelque chose avec quoi Dieu veut se glorifier. Mes amis, Dieu ne se glorifie pas dans la maladie, Dieu se glorifie dans la guérison. Dieu ne se glorifie pas dans le manque, Dieu se glorifie dans l'abondance. Dieu ne se glorifie pas dans les difficultés, Dieu se glorifie dans la victoire. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Dites ça avec moi, Dieu est bon. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je dis ça, ça commence à... S'il y a quelque chose dans cette parole, Dieu est bon. Et quand Dieu est bon, je ne peux pas accepter autre chose que ce qui est bon dans ma vie. Ok ? Maintenant, il y a tellement de mensonges qui ont été donnés là-dessus que nous avons besoin de les balayer. Mais j'ai pas envie ce matin de faire un catalogue des mensonges sur la bonté de Dieu. J'ai juste envie de vous montrer la bonté de Dieu et de vous amener avec moi à vivre de plus en plus que Dieu est bon. Il est bon, il est vraiment bon. Quelqu'un a dit un jour, il est plus bon que les bonbons. Et moi, j'aime les bonbons. Et donc, pour moi, ça a du sens. Alléluia. Merci Seigneur. Un Dieu bon fait des choses bonnes. Mais alors, pourquoi est-ce que tout n'est pas bon ? Parce qu'il faut quand même reconnaître que dans nos vies et sur la terre, tout n'est pas bon. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1, qu'il nous apporte là une lumière et une sagesse sur la question. Donc, Jacques, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 13. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Par quoi ? Sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Donc c'est clair, hein, ce qu'on vient de lire. Si on est tenté, si on voit l'œuvre de la mort, donc l'œuvre de la mort, c'est tout ce qui en découle, tout ce qui amène à la mort, la maladie, les difficultés, le manque, la souffrance, tout ça, c'est des œuvres de la mort. D'accord ? Quand on parle de vie, on n'imagine pas ces choses-là. La vie, c'est à l'opposé de la mort. Et les œuvres de la mort sont produites comment ? À cause de nos propres convoitises. Donc, c'est-à-dire que le cœur de l'homme étant méchant, c'est le cœur de l'homme qui produit l'œuvre de la mort. Donc, le péché qui est entré dans le monde a amené ces choses qui sont pas bonnes à exister. Et c'est le péché en général, parce que tout homme est pécheur. Je dis pas que vous êtes forcément une personne mauvaise. Vous pouvez être une personne qui a l'air bonne, mais votre cœur est pécheur. Jusqu'à temps que vous donnez votre vie au Seigneur, que vous recevez la rémission des péchés par son œuvre à la croix et que vous devenez une nouvelle créature où vous pouvez commencer à marcher dans la nature glorieuse de Dieu. Mais jusqu'à ce temps-là, si les hommes souvent nous reprochent que Si ton Dieu est bon, pourquoi il y a du malheur? Si ton Dieu est bon, pourquoi il y a de la misère? Si ton Dieu est bon, pourquoi il y a des catastrophes? À cause du cœur de l'homme. Parce que Dieu est bon, mais le cœur de l'homme est mauvais. Et ça, c'est la réalité. Donc, arrêtons d'accuser Dieu pour ce qui ne vient pas de lui. Ce n'est pas sa faute, quelque part. J'ai envie de dire, ce n'est pas la faute de Dieu. S'il y a du malheur, s'il y a du péché, s'il y a du mal, c'est parce que le cœur de l'homme est mauvais. D'accord? Et Dieu a tout créé avec perfection, mais l'homme, eh bien, il a perverti les choses. Et vous pourrez lire l'histoire du commencement. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas la pensée du péché dans son cœur. L'homme était parfait et il aurait pu vivre une harmonie parfaite avec Dieu. Et la maladie n'aurait jamais existé, la mort n'aurait même jamais existé. Il y aurait eu la vie éternelle dans la présence de Dieu, dans ce jardin où il n'y avait que des bonnes choses. Mais l'homme a été tenté. L'homme a été tenté. Je ne vais pas dire par la femme parce que ça serait un peu macho, mais bon. Le diable est venu tenter l'homme et la femme, et l'homme et la femme ensemble ont péché. Et c'est ce qui les a privés de la gloire de Dieu. L'Épître aux Romains dira « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Mais il n'y a pas un point final à ça. Marqué « mais le don de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ et nous pouvons le recevoir ». Nous pouvons le recevoir et ça c'est bon parce que Dieu est bon. Donc Dieu est bon et ce qui vient de Dieu, c'est bon. Le mot « bon » va beaucoup ressortir, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça. Hein. Ok ? Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on regarde ensemble quelques signes de la bonté de Dieu. Parce que je balance pas ça comme ça, Dieu est bon, ça y est. Ce matin, je me suis réveillé et puis je me suis dit, c'est pas mal, Dieu est bon. Mais on a beaucoup de signes de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dans la création, on voit que dans Genèse 1, à chaque fois que Dieu avait créé quelque chose... Si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y, c'est pas trop difficile à trouver. Genèse 1, ça va pour tout le monde? Normalement, c'est au début de la Bible, hein, dans les premières pages. Donc, Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On va pas tout lire, hein, ça serait long, mais Dieu crée les choses et à chaque fois qu'il a créé quelque chose, par exemple au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu voit que c'est bon. D'accord? Plus tard encore, Dieu, à chaque fois qu'il crée quelque chose, il voit que c'est bon. Et au verset 31, on a cette conclusion où il est dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. » On dit « très bon » ? C'était très bon. Ouais, tout ce que Dieu a fait était très bon. Donc, ce que Dieu crée, c'est comment ? C'est très bon. Ouais, alléluia. 1 Timothée 4,4 dit la même chose. Tout ce que Dieu a créé est bon. Voilà, donc comme ça, si vous n'êtes pas sûr avec la Genèse, et bien dans 1 Timothée, c'est rappelé. Tout ce que Dieu crée est bon. Donc, par définition, tout ce qui n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Le raisonnement est assez facile à suivre, je pense, que je n'ai pas besoin d'utiliser le tableau aujourd'hui. Si tout ce que Dieu crée est bon, tout ce qui n'est pas bon, ce n'est pas Dieu qui le crée. Ok ? Ça va, ça ? Ça, c'est déjà un premier signe, hein, de la bonté de Dieu. Ce qu'il crée est bon. Donc Dieu est bon et ce qui sort de Dieu, c'est bon. Maintenant, il y a encore mieux, c'est que ce que Dieu a créé, il nous le donne. Ouais, il nous le donne. 1 Timothée 6, au verset 17, il y a une exhortation à profiter de ce que Dieu nous a donné. 1 Timothée 6, 17, la deuxième partie du verset, « Dieu donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. » Ouais, afin que nous en jouissions. Vous savez, jouir de quelque chose, c'est positif, hein. C'est que ça nous fait du bien, c'est que c'est agréable, c'est que c'est pour notre bien-être, c'est pour notre bonheur. Donc Dieu donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Donc Dieu veut que nous ayons des bonnes choses, puisqu'il nous les donne. Dieu ne nous donne pas quelque chose qui n'est pas bon. Dieu nous donne ce qui est bon pour que nous en jouissions. Donc c'est juste de vouloir les bonnes choses. C'est correct, c'est bon. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que les choses restent à la place d'une chose. On ne cherche pas Dieu parce qu'on veut une bonne chose et en jouir. Mais la Bible dit que cherchez premièrement le royaume de Dieu et quoi ? Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Dieu veut nous donner toutes les bonnes choses. Et dans le psaume 84, verset 12, il est dit « Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité ». Et le psaume 34, verset 11, dit la même chose. « Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. » Aucun bien. Dieu ne refuse aucun bien. Dieu ne nous prive d'aucun bien, à condition que quoi ? Qu'on marche avec Dieu et dans l'intégrité. Mais si on marche avec Dieu, il nous donne ce qui est bon. Il nous donne des biens. Il ne nous donne pas du mal. Ok ? Donc, Dieu ne nous prive d'aucun bien. Il fait des bonnes choses et en plus, il nous les donne. Et Jacques 1, verset 5, vous pouvez le noter, dit aussi que Dieu distribue généreusement ses dons et qu'il ne fait pas de reproches. Dieu est généreux. Dieu n'est pas radin. Dieu n'a pas créé les choses seulement pour regarder son œuvre et dire « c'est quand même chouette ce que j'ai fait, je suis quand même un Dieu puissant ». Non, Dieu a créé les choses bonnes et il les donne aux hommes, il nous les donne, il nous les donne. Donc la création c'est un signe de la bonté de Dieu, le fait que Dieu nous donne ce qu'il a créé c'est un signe de la bonté de Dieu. Et maintenant encore un autre signe et c'est peut-être le signe par excellence, c'est la rédemption. La rédemption c'est quoi ? C'est le salut. C'est le fait que cet homme qui a péché, comme nous l'avons vu en introduction, et qui a ainsi introduit le mal dans sa vie, eh bien, Dieu va encore intervenir et permettre que nous soyons arrachés, retirés de ce mal que quelque part nous-mêmes nous avons provoqué pour pouvoir de nouveau jouir de sa bonté, pour pouvoir de nouveau être en communion avec lui et recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 10, 10, il est parlé de vie abondante. 3 Jean 2, il est parlé de prospérité à tous égards. Simplement, lisez la Bible, c'est un signe de la bonté de Dieu. Et la rédemption, c'est vraiment la bonté de Dieu par excellence. Et on le voit dans le ministère de Jésus. Acte 10, 38, on peut lire ce témoignage. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus faisait quoi ? Il faisait du bien. Du bien, c'est bon. Dieu est bon et il fait du bien. Vous savez, Jésus faisait la volonté du Père, parfaitement, par excellence. Plusieurs fois, on voit comment Jésus se réfère au Père, comment Jésus dit « ta volonté, pas ma volonté », jusqu'à la croix. Donc si Jésus faisait du bien, si Jésus faisait ce qui est bon, c'est parce que Dieu voulait faire du bien. Et parce que Dieu donne ce qui est bon, il est un Dieu bon et il fait du bien. Et le comble de son amour, ça a été d'offrir sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et il l'a fait pour que nous puissions recevoir de Dieu. Il l'a fait pour que nous puissions être rétablis dans notre position d'enfant de Dieu, bien-aimé du Seigneur. Et ça, c'est à notre disposition. C'est pour nous. Dieu veut que nous vivions ça. Il s'est donné lui-même. Il a lui-même pourvu à son sacrifice pour que le péché ne puisse plus avoir d'emprise sur nous. Ça, c'est bon, hein. Lisons ensemble Éphésiens 2, à partir du verset 4, qui nous parle du salut. Éphésiens 2, 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grandeur par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, c'est la bonté de Dieu que de nous avoir sauvés. Il nous a sauvés, il est bon, et en plus, il a préparé quoi ? Des bonnes œuvres pour que nous puissions les pratiquer. Et Dieu nous a sauvés et il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Vous tournez la page, Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dieu nous a déjà bénis dans les lieux célestes. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. La bénédiction est là, elle est disponible. Nous sommes bénis dans les lieux célestes. Et nous pouvons juste recevoir ces bénédictions, nous y connecter. Dieu est bon, il a tout accompli pour notre bien. Vous savez, potentiellement, tout le monde est sauvé. Potentiellement, tout le monde est guéri. Potentiellement, tout le monde est en bonne santé. Potentiellement, tout le monde est prospère. Potentiellement, il n'y a pas d'échec. potentiellement, nous pouvons vivre une vie extraordinaire sur cette terre parce que tout a été accompli et cette parole en est le témoignage. C'est fait. Mais bon, dans les faits, tout le monde n'est pas sauvé. Dans les faits, tout le monde n'est pas guéri. Dans les faits, tout le monde n'est pas en bonne santé ou prospère. Pourquoi ? Parce qu'il nous appartient de nous connecter à ce que Dieu a fait. Dieu est bon. Et il y aurait tellement d'autres exemples de dire, mais voilà un signe de la bonté de Dieu. Et comme je dis, lisez la parole, vous verrez combien Dieu est bon. Regardez juste autour de vous. Moi, je vois les gens autour de moi, je dis, Dieu est bon. Même si quelquefois on peut un petit peu se frotter ou se fâcher ou ne pas être d'accord, mais Dieu est bon. Il nous a donné des gens autour de nous avec qui on peut être en communion, des gens avec qui on peut s'encourager, on peut grandir ensemble, on peut se faire du bien. Dieu est bon. Ça peut être un défi de dire que Dieu est bon quand vous voyez certaines personnes qui sont autour de vous, parce que parfois c'est difficile. Mais peu importe comment la personne vous répond, Dieu est bon. On a chanté tout à l'heure, nous vous apprécions et nous voyons en vous les dons que Dieu a mis. C'est des dons excellents. Ouais. Mais si on commence à avoir ce regard sur les gens autour de nous, on va dire Dieu est bon. Dieu est bon. Au lieu de voir que peut-être la personne n'est pas tout à fait dans la ligne exacte de ma conception des choses, mais il y a en elle, il y a en lui des dons excellents. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, merci Seigneur. Vous savez, si on commence vraiment à regarder ce qui est autour de nous en nous disant « Mais Dieu est bon », en nous, il y a quelque chose qui va se construire, qui va grandir et on va développer une foi inébranlable dans la bonté de Dieu. Si bien que quand quelque chose qui n'est pas bon va arriver devant nous, on est tellement sûr et affermi dans le fait que Dieu est bon qu'on y oppose vraiment un mur de résistance et ce qui n'est pas bon est obligé de se transformer en bon parce que notre Dieu est capable de transformer les circonstances et notre foi lui donne l'occasion de le faire. Donc donnons à Dieu l'occasion de manifester sa bonté. Et c'est ma deuxième partie, vivez la bonté de Dieu. Vivez la bonté de Dieu. Lisons le psaume 34, qui est un témoignage vraiment à la bonté de Dieu. Vous savez, le livre des psaumes, c'est vraiment un endroit où on s'encourage. Moi, quand je regarde les témoignages des psaumes, mais je peux seulement dire que Dieu est bon. Si peut-être quelque part vous êtes un peu découragé, vous avez besoin de vous faire du bien, lisez les psaumes. Lisez les psaumes, vous verrez vraiment la bonté de Dieu. Alors on va lire ce psaume, psaume 34, c'est David. Donc verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel. » Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun de n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. C'est un peu long, et vous n'avez pas tout retenu, et moi non plus, mais là-dedans, il y a la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et on y voit plusieurs choses. Il y a des témoignages de la part de David. Il y a une exhortation à louer le Seigneur avec lui à cause de ce que lui a vécu. Mais je voudrais souligner quelque chose au verset 9. David dira « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » Donc il raconte que Dieu est bon pour lui. Mais à un moment donné, il dit « Mais toi aussi, sens et vois combien l'Éternel est bon. » Au-delà de juste témoigner de la bonté de Dieu, il encourage chacun. Toi, vis-le, sens-le, goûte-le. Prends plaisir à la bonté de l'Éternel. Et c'est bon de lire des témoignages, c'est bon de s'encourager de ce que les autres vivent, et c'est bon de rendre témoignage, parce que ça va fortifier la foi des autres. Mais au-delà de ça, vivez quelque chose vous-même. Vivons quelque chose nous-mêmes. Il y a vraiment une invitation de David, mais au-delà de ça, de Dieu, à dire « Tu vois que je suis bon auprès des autres, et tu me loues pour ça, et c'est très bon. Mais toi aussi, sens, goûte, vois combien l'Éternel est bon. Vois combien je suis bon pour toi. Vis ma bonté, goûte-la. » Et vraiment, si vous goûtez, vous allez ensuite manger, parce que c'est tellement bon, parce que c'est excellent. Vous savez, goûter, c'est un petit peu, d'accord ? Mais ensuite, on va manger. En général, c'est au départ, on goûte et après, on mange. On mange. Alors, mangez la bonté de Dieu. Goûtez-la et une fois que vous l'avez goûtée, mangez. Allez-y, à pleine bouchée. Il y en a vraiment en quantité parce que Dieu est bon. Notre Dieu est bon et il veut que nous vivions et que nous expérimentions sa bonté. Merci Seigneur. Donc, vivre la bonté de Dieu, ça passe par méditer sur la bonté de Dieu. Méditez sur la bonté de Dieu. Pensez à la bonté de Dieu. Reconnaissez dans votre cœur que Dieu est bon. Lisez des paroles qui parlent de la bonté de Dieu. Repassez dans vos cœurs des souvenirs de la bonté de Dieu que vous avez vécu. Reconnaissez cette bonté. 1 Pierre 2, verset 3, nous dit cette même exhortation. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté, donc là pareil, c'est on goûte, mais après avoir goûté, on va en prendre plus. Et si vous avez besoin de guérison, méditez les versets sur la guérison. Si vous avez besoin de provision, méditez les versets sur la provision. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de succès, de réalisation, méditez des versets sur le succès. Lisez des témoignages sur le succès, mais plus encore, vivez la bonté de Dieu dans votre vie. Pour le succès, pour la guérison, pour la prospérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Oui, merci Seigneur, pour la manifestation de la présence de Dieu, pour tout ce qui touche à notre vie, parce que Dieu est bon. Dieu est bon et il veut manifester sa bonté. Donc, comment en prendre conscience et comment s'y connecter ? Premièrement, méditez-la. Vous savez, ce que vous méditez, c'est ce qui occupe vos pensées. Et ce qui occupe vos pensées, à un moment donné, c'est aussi ce vers quoi vous allez vous porter. Parce qu'à force que je pense à une chose, c'est vers là que je vais. C'est là que mon attention est portée. Donc, parfois, devant une situation, si je pense que, oh là là, je suis stressé, ça va être difficile, je suis sûr qu'il y aura une question à laquelle je ne saurais pas répondre, vous méditez ça, vous ruminez ça, eh ben, vous avez beaucoup de chance, pour pas dire 100% de chance, que vous arriviez là stressé, en difficulté, et que vous ratiez votre examen. Parce que vous méditiez ça. C'est pareil dans tous les domaines, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, si vous n'êtes pas bien et que vous allez voir un médecin et vous êtes là dans la salle d'attente à ruminer, « Oh, il va me donner des antibiotiques, je vais avoir un traitement lourd parce que vraiment ça ne va pas. » Vous méditez ça, c'est ça que vous êtes en train de provoquer dans votre vie. Mais si vous méditez la parole de Dieu, si vous méditez le témoignage de la bonté de Dieu, vous allez provoquer la bonté de Dieu dans votre vie. Vous allez provoquer la manifestation de sa grâce, de sa puissance, de sa gloire dans votre vie. Même quand on va dans une réunion chrétienne, il y a des fois où dans notre cœur, on se dit « Oh, mais aujourd'hui, ça va encore être comme ci ou comme ça, ça va être encore comme d'habitude, on va s'asseoir là, on va chanter un petit peu, on va entendre un message, on va essayer de ne pas bâiller parce que 50 minutes, c'est long. » Et puis voilà, après c'est reparti pour une semaine. Mais si vous méditez les paroles de Dieu, si vous méditez les psaumes qui disent qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité, si vous méditez des paroles qui disent que si vous êtes assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, si vous méditez des choses dans la parole où Dieu se manifeste à son peuple quand le peuple est assemblé, si vous méditez le souvenir d'une réunion qui vous a vraiment transformé, si vous méditez des témoignages de ce que Dieu est en train de faire, vous venez avec une attente qui est différente et vous allez provoquer un culte, une réunion, une rencontre différente. Ce que vous méditez, ça va provoquer quelque chose et faisons-le dans tous les domaines. Et on a besoin de s'exercer parce que ce n'est pas naturel pour nous, parce que notre âme a tendance à tenir compte de ce qui est réel, de ce qui est là, et avec ça, on essaye de bricoler quelque chose. Mais ce n'est pas à notre âme d'influencer nos pensées. C'est à notre esprit d'amener à notre âme la pensée de Dieu, la pensée céleste. Exercez-vous à ça, exercez-vous à penser la pensée de Dieu. même si elle va à l'encontre de ce qui serait naturel de penser ou d'attendre. Même quand vous allez voir quelqu'un qui est toujours méchant ou fermé avec vous, mais commencez à penser que Dieu incline son cœur. Dieu est capable d'incliner le cœur d'un roi. Pourquoi il n'inclinerait pas le cœur de cette personne qui est dure envers vous? Si vous méditez que ça va être difficile, ça va être difficile. Si vous méditez que Dieu incline son cœur, vous allez arriver et vous n'allez même pas savoir pourquoi, mais cette personne, vous allez obtenir sa faveur. Et vous allez pouvoir amener quelque chose de la part de Dieu à cette personne-là. Vous allez obtenir ce pourquoi vous êtes venu, mais encore plus que d'obtenir quelque chose, vous allez lui apporter quelque chose. Parce que vous avez médité la bonté de Dieu. Donc, première chose pour se connecter et pour vivre la bonté de Dieu, c'est de méditer sa bonté, méditer sa parole. Ensuite, parler dans le sens de sa bonté. Parce que souvent, nos pensées sont en lien avec ce qu'on va dire. Et ça, il y a beaucoup de versets pour ça. Et l'un des plus frappants, qui, les premières fois que je l'ai découvert, avant même d'avoir eu beaucoup de connaissances ou d'enseignements sur la foi, et bien quand j'ai lu ça, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est tout juste si ça ne fait pas peur, quoi, de dire mince. Ce que je vais dire, ça va influencer la mort ou la vie. Et il y a d'autres paroles dans ce sens dans la Bible, mais parler dans le sens de sa bonté, parler la bonté de Dieu. Au même titre que vous allez penser à la bonté de Dieu, même quand tout est contraire, parlez la bonté de Dieu, même quand tout est contraire. Au milieu d'une situation dans laquelle vous êtes, même si elle est difficile, même si c'est pas facile, le psaume 34 le dit aussi, souvent le malheur atteint le juste, souvent même. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc même s'il y a un malheur qui arrive, on va pas dire, mince, j'ai péché, je suis pas dans le plan de Dieu. Le malheur viendra souvent. Ne cherche pas pourquoi, sors du malheur. Vous savez, des fois, quand il y a un malheur qui vient, on s'assied, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais même en tant que chrétien, on fait ça. Mais cherchez plutôt le moyen d'en sortir. Méditez la parole, parlez la parole, recevez de l'esprit la pensée et la direction qui va faire que ce malheur va devenir quelque chose de différent, quelque chose de positif, un bonheur dans votre vie. Parlez dans le sens de sa bonté. Ce psaume 34 toujours dira « Préserve ta langue du mal ». Donc le mal, c'est pas seulement de pas dire du mal des gens. Ça, bien sûr, s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais vous pouvez ne pas parler en mal des gens, mais pourtant, votre langue peut être infectée par le mal. Parce que le mal, c'est aussi ce qui n'est pas bon. Et donc, quand je parle quelque chose de négatif, je suis en train de parler le mal. Ma langue est en train d'être influencée par le mal. Donc, veillons sur nos paroles. À chaque fois qu'on parle dans un sens différent de celui de la bonté de Dieu, on parle le mal. Soyons à 100% dans la bonté de Dieu. 100% et développons vraiment un état d'esprit et un langage qui se base et qui s'accorde à la bonté de Dieu et à rien d'autre. Rien d'autre. Dieu est bon. Troisième chose pour vivre et se connecter à la bonté de Dieu, c'est de louer Dieu. Louer Dieu. Parce que la bonté de Dieu, elle ne vient pas de nous-mêmes, c'est déjà un sujet de louange, c'est une grâce de Dieu. Et ensuite, louer Dieu, parce que pendant qu'on loue, on dit les bontés de Dieu, on dit ce que Dieu fait ou ce que Dieu a fait, on dit combien Dieu est grand, et donc en même temps, on est en train de s'encourager soi-même, on est en train de s'exhorter soi-même, et on est en train d'appeler ces choses bonnes à exister. Et le psaume 106 et le psaume 107, et d'autres encore, commencent par ces paroles ou contiennent ces paroles, « Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Louez-le. » Donc, louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Et là, c'est pareil. S'il y a une situation difficile, plutôt que de murmurer, plutôt que d'être là, dire, mince, mais il y a encore ça qui va pas. Quand il y a une situation difficile, c'est louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Je commence à louer l'Éternel, pas pour le problème, mais dans le problème, je loue l'Éternel et je vais en sortir. Et je vais en sortir et j'en sors vainqueur. Quatrième chose pour vivre la bonté de Dieu dans notre vie, c'est de demander. Demander. Ça, c'est tout simple, hein. Lisons Matthieu 7. Matthieu 7. L'enseignement de Jésus, à partir du verset 7. Demandez et on vous donnera pas. On vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il quoi ? De bonnes choses à ceux qui les lui demandent. À ceux qui les lui demandent. Vous savez, dans ce passage, Jésus n'est pas seulement en train de traiter les gens de méchants. Quand Jésus dit « si méchant comme vous êtes, vous savez faire du bien à vos enfants », en fait, il attire notre attention sur le fait que ce que nous considérons comme de la bonté, en fait, à côté de la grandeur de la bonté de Dieu, c'est comme si on était méchant. C'est tellement petit. L'homme est capable d'une bonté tellement petite et Dieu d'une bonté tellement grande. Donc, si on est capable de faire du bien à nos enfants, aux gens qui sont autour de nous, eh bien, Dieu est capable et Dieu veut nous donner des bonnes choses, mais il les donne à qui ? À ceux qui les demandent. Donc, demandez. 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 Et Dieu va aller au-delà de certaines choses et de certaines limites. Et par exemple, dans Exode 33, vous pourrez lire ça. Moïse, à un moment donné, demande à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire !» Et en fait, c'est quelque chose que Dieu ne pouvait pas faire. C'était impossible. Parce qu'il était sous l'ancienne alliance, parce que l'homme était séparé de Dieu à cause du péché, parce que Jésus n'était pas encore revenu, et il ne pouvait pas voir Dieu. Et Dieu lui dira, « Tu ne peux pas voir ma face. » Mais je te cache ici au creux du rocher et je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Dieu dit, je vais faire passer toute ma bonté devant toi. Et Dieu passe quand même devant lui et Dieu lui permet de le voir. Quelque chose que normalement l'homme n'avait pas le droit, mais parce qu'il a simplement demandé, en ayant confiance dans la bonté de Dieu, Dieu va dire, ok, je vais te montrer ma bonté. Et il va faire quelque chose pour lui. Quand vous demandez, vous n'êtes jamais frustré parce que Dieu va toujours trouver quelque part dans sa bonté le moyen de vous répondre. C'est pas au-delà de nos raisonnements, ça. C'est pas au-delà de nos pensées, ça. Déjà, c'est parfois difficile de croire que Dieu va me donner ce qui m'est pourtant acquis et ce qui m'est promis dans la parole. Mais Dieu va au-delà si tu demandes avec un cœur confiant dans sa bonté. Il l'a fait pour Moïse. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, parce que Jésus a ouvert cette route nouvelle et vivante par son sang vers le trône de Dieu, et j'aime tellement cette pensée, mais on a accès à tout l'infini de ce qui se trouve dans les lieux célestes. Et ça dépasse de loin ce qu'on peut désirer. Donc, demande à Dieu quelque chose d'inimaginable et il va te le donner. Il va te le donner, pas à cause de toi, mais par sa grâce, à cause de Jésus. Parce qu'il s'est pourvu lui-même d'un sacrifice meilleur. Donc n'écoutons pas les voix des gens autour de nous qui disent « Mais tu peux pas prier ça ? Tu peux pas demander ça à Dieu ? Ça va pas ça ?» Si, parce que Dieu est bon. Et ce qui est bon pour toi, il va te le donner. Maintenant, si c'est pas bon ce que tu demandes, il va te faire comprendre que c'est pas bon. Et c'est aussi sa bonté de faire ça. Parce que Dieu nous garde. Il va pas nous donner quelque chose qui va nous piéger. Il va pas nous donner quelque chose avec quoi on va pas le gérer correctement et on va aller vers l'échec. C'est ça aussi la bonté de Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il te donne ce que tu demandes, mais il est aussi tellement bon qu'il ne te donne pas certaines choses, mais il est si bon qu'il va te faire comprendre pourquoi il ne te les donne pas tout de suite. Et tu ne vas pas être frustré, tu vas être dans la joie et tu vas dire « Dieu est bon ». Et il y a des moments où on peut dire « Merci Seigneur, tu es bon parce que tu m'as gardé de ça, parce que je me rends compte aujourd'hui que si à ce moment-là j'avais reçu ce que j'avais demandé, ça aurait mal tourné pour moi. » Et ça, c'est la sagesse de Dieu qui va nous dépasser, mais même dans ces situations, Dieu est bon. Parfois, si tu reçois pas quelque chose, vous savez, on peut parler avec le Seigneur. Hein. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu ne me le donnes pas ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai confiance en ta bonté, je sais que tu es bon, c'est quelque chose qui est bon en soi, mais le Seigneur va vous montrer pourquoi c'est pas bon pour vous maintenant. Et ça va vraiment vous faire du bien et ça va vous encourager. Donc ne soyons pas frustrés quand les choses ne vont pas dans notre sens, allons dans le sens de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on sait quoi demander à Dieu. Si j'ai besoin de guérison, je sais quoi demander. Si j'ai besoin de prospérité, je sais quoi demander. Si j'ai besoin de la paix de Dieu, je sais quoi demander. Mais Dieu va nous amener encore plus loin et va nous donner l'occasion de demander des choses, même quand on ne sait pas quoi demander, et de demander la bonne chose. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, là on voit et on connaît que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord ? Mais parfois, on a juste ce verset et on se demande pourquoi il y a des choses qui ne nous font pas du bien. Eh bien, si vous voulez que toute chose, 100%, concourt à votre bien, appliquez ce qui est marqué juste au-dessus. Priez par l'Esprit. L'Esprit va vous donner de demander la bonne chose. L'Esprit va vous faire aller dans la bonne direction. Donc, c'est quoi prier par l'Esprit ? Ben, l'un des moyens excellents de le faire, c'est de prier en langue. C'est un don que Dieu nous a fait. Il nous donne de pouvoir... Parfois on ne sait pas quoi demander. On est désemparé, c'est vrai. On ne sait pas vraiment où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais au lieu de réfléchir, au lieu d'être vague dans nos prières, mais priez par l'Esprit. Priez par l'Esprit. Donc faites-le par la prière en langue. Et parfois, vous vous rendez compte qu'en priant aussi, vous recevez la pensée de l'Esprit et vous vous surprenez à prier des choses que vous n'aviez pas prévu de prier. À demander à Dieu quelque chose, à remercier Dieu pour quelque chose que vous n'aviez pas prévu au début de demander à Dieu. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes juste rendu attentif à la pensée de l'Esprit. Et en ayant reçu la pensée de l'Esprit de Dieu, vous êtes allé dans la bonne direction. Et quand vous faites ça, toute chose concourt à votre bien. Quand vous faites ça, vous entrez dans les œuvres bonnes préparées d'avance, dont on a lu tout à l'heure. Et donc, si c'est préparé, ça veut dire que les choses ont une autre dimension de facilité. Je ne dis pas que la vie chrétienne est facile. Je ne dis pas qu'elle est rose, qu'il n'y a pas de problème. Mais elle est préparée. Et si elle est préparée et que nous faisons juste les bons gestes pour entrer dans ce que Dieu a préparé, ça coule beaucoup mieux. C'est beaucoup plus naturel et ça va vraiment être bon parce qu'on va dans la bonne direction. D'accord ? Parce que c'est pas automatique que tout concourt à notre bien. C'est pas automatique que la bonté de Dieu soit manifestée dans notre vie. Mais si nous décidons et qu'on se met vraiment dans la ligne de la bonté de Dieu, alors on va permettre à ce que cette bonté se manifeste. Merci Seigneur. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bon. Et dernière chose que j'aimerais attirer votre attention, c'est que si Dieu est bon, nous devons croire qu'il est bon, nous devons vivre sa bonté, mais nous aussi, nous devons être bons. Dieu est bon, mais nous devons être bons. Nous devons refléter la bonté de Dieu. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ, devenez donc les imitateurs de Dieu. Donc, puisque Dieu est bon, on va l'imiter. Et si on imite Dieu, nous aussi, on est bon. On manifeste de la bonté aux gens. Donc, semer de la bonté. Vous savez, ce principe de semer et récolter, il est valable toujours et partout, dans tous les domaines. Donc, si on reçoit la bonté de Dieu, à notre tour, on va semer la bonté de Dieu autour de nous et ça va produire des changements. Galates 6, 7 dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et un petit peu plus loin au verset 10, donc c'est Galates 6, verset 7 et verset 10, « Pratiquons le bien envers tous. » Donc, si on commence à semer l'amour, la patience, la bonté, c'est ce qu'on va aussi récolter. Et même si quelquefois la personne en face de nous ne réagit pas tout à fait dans le sens qu'on peut espérer, semer la bonté, semer l'amour, semer la patience, semer des choses positives et tôt ou tard, vous allez récolter. Et si ce n'est pas forcément la personne envers qui vous semez ça qui vous répond, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour vous ramener vers vous la bonté que vous avez manifestée envers quelqu'un. Donc soyons des témoins de Dieu, faisons le bien, soyons bons, puisque Dieu est bon, nous sommes appelés à être bons. Et cherchons vraiment de plus en plus à être des gens bons. Ça va à contre-courant de la pensée du monde, parce qu'aujourd'hui, on aurait plus tendance à être des gens un petit peu méchants, un petit peu agressifs pour s'en sortir dans ce monde. Hein, il faut se frayer un chemin. Ça, c'est la direction dans laquelle va le monde actuel. Si vous êtes doux aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Si vous vous affirmez pas que des fois vous tapez sur la table, c'est difficile parce que le monde marche comme ça. Mais nous pouvons manifester la bonté de Dieu. Et la bonté de Dieu, c'est pas une faiblesse. Parce que parfois, être ferme, c'est manifester de la bonté. Mais aspirons à ça, demandons à Dieu de nous donner sa bonté, de faire de nous des gens bons. Pas des gens bons, des personnes bonnes. Soyons bons et on va récolter de la bonté aussi. On va commencer à transformer le monde. Vous savez, on dit parfois qu'on ne peut pas changer le monde, mais nous pouvons changer notre monde, le monde qui est autour de nous. Et faisons-le en manifestant de la bonté. Et ça va aller à l'encontre des habitudes des gens, mais ça va les amener à penser autrement aussi. Ils vont dire, mais c'est vrai, en fait, on n'a pas besoin d'être méchant comme ça. On n'a pas besoin d'agresser pour recevoir quelque chose. On peut être bon. Donc, soyez bons, vivez la bonté de Dieu, parce que Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc fixons nos yeux sur cette bonté de Dieu. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, le psaume 63, « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Waouh ! Ouais. « Ta bonté vaut mieux que la vie. » Que ça devienne aussi notre déclaration. Que nous soyons des gens qui commençons à vivre la bonté de Dieu au point que nous soyons là à dire « Mais Seigneur, ta bonté, c'est tellement bon. Ta bonté vaut mieux que la vie. Je préfère, Seigneur, vivre ta bonté que même ma propre vie. C'est plus important pour moi de connaître ta bonté, Seigneur, que de vivre. La bonté des hommes, que parfois je recherchais peut-être, eh bien, Seigneur, à côté de ta bonté, peu m'importe. Ce qui m'importe, c'est d'avoir ta bonté. Dieu est bon. Amen.